RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Christophe.
Bienvenue. Ça va? À vous, comme chaque semaine.
Ouais, vous. Merci.
C'est votre jour de science, bien sûr. C'est notre rendez-vous familial. Comme chaque samedi, cette semaine, on va s'intéresser à un personnage au destin absolument incroyable. Mais pour autant, souvent oublié des livres d'histoire. Un certain Pompée que va nous faire découvrir un invité qu'on connaît bien dans cette émission. En direct avec nous depuis les studios de France Bleu Gard-Lozère, le professeur Éric Tessier, maître de conférences à l'Université de Nîmes, où il dirige le département histoire et spécialiste reconnu de la Rome républicaine.
Oui, Christophe, alors Éric Tessier, on a vraiment toujours un plaisir fou à l'écouter nous parler du monde antique. On se souvient, les auditeurs l'ont beaucoup plébiscité cette émission, hein, de celle réalisée avec lui autour des gladiateurs il y a quelques semaines. Aujourd'hui, vous l'avez précisé, on va s'intéresser à Pompée le Grand, dernier impérator de la République romaine au 1er siècle avant notre ère, on est à cette époque, général victorieux au combat sur 3 continents, on va le comprendre, 3 fois consul, fondateur de villes, bâtisseur à Rome, faiseur de rois, séducteur et diplomate. Son ascension fut fulgurante et sa chute vertigineuse, notamment causée par un puissant adversaire en interne du nom de César. Alors on est vraiment chanceux parce que notre invité Éric Tessier est l'un des rares auteurs à avoir sorti de l'ombre cet homme au destin incroyable et à lui avoir carrément consacré une biographie, Pompée, l'anti-César, publiée en 2013 aux éditions Perrin. On retrouve notre invité tout de suite.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Éric Tessier.
Bonsoir.
Bonsoir Éric.
Ravi de vous retrouver dans cette émission, c'est votre jour de science. Si Pompée est sans conteste l'un des hommes les plus célébrés par les historiens de son époque, il semblerait que son puissant rival César lui ait vraiment volé la vedette.
Et oui, il a pas de chance. En fait, c'est deux monstres de l'histoire romaine qui sont nés à 5 ans d'écart, 106 avant Jésus-Christ pour Pompée, 101 pour César ou 100. Donc, ils sont de la même génération, mais bon, Pompée était avant, il a commencé très jeune, il a été une sorte de modèle pour César, qui a été finalement une sorte d'admirateur et un allié et finalement un ennemi. Donc, c'est vraiment ces deux destins un peu parallèles qui sont intéressants de présenter ensemble.
Alors vous nous avez dit que Pompée a commencé jeune et qu'il a été un modèle. À 25 ans, il reçoit le titre de Magnus le Grand. Comment ça se passe tout ça ?
Pompée va naître dans un contexte très, très difficile. Il est issu d'une famille riche, mais pas une famille de la très haute aristocratie. Son père est ambitieux, il est général, il devient consul, c'est le premier de la famille. Mais c'est une époque qui est troublée, c'est une époque de guerre civile, une époque où les Romains s'affrontent. On est entre 89 et 85 avant Jésus-Christ. Et Pompée va être entraîné dans ces guerres intestines, très, très violentes d'ailleurs, entre d'un côté ce qu'on pourrait dire, bon, on va dire le camp du Sénat, le camp des aristocrates, les optimates, de l'autre côté le camp des populaires, le camp du peuple, les populares. Et donc Pompée va se retrouver finalement plutôt du camp des optimates. Il va suivre donc le leader de l'époque, c'est Sylla qui va être dictateur, Sylla qui est donc là aussi un grand Romain. Et il va être tout jeune, donc à 25 ans, un des généraux de Sylla. On peut comparer son destin à celui de Bonaparte. Tous les deux nés finalement dans une, on va dire une bourgeoisie, peut-être plus élevée pour Pompée que pour Bonaparte. Tous les deux, ils ont 20 ans dans un contexte de guerre civile, de révolution, donc de guerre civile très très violente. Et ils vont émerger grâce aux faits militaires. Pompée n'a pas eu le temps de faire les études des jeunes aristocrates de son milieu. Il est un ami et un strict contemporain de Cicéron. Cicéron, le grand orateur, le grand avocat. Pendant que Cicéron, lui, va faire tranquillement 5 années d'études supérieures, on peut dire, en philosophie, en art oratoire à Athènes, lui, il est dans les camps militaires, il commande des troupes contre d'autres Romains. Et ça lui vaut, de la part de Sylla lui-même, c'est-à-dire le grand homme de l'époque, le dictateur de l'époque, ce surnom qui va lui rester de Pompeius Magnus, le Grand. Tout simplement en référence à Alexandre le Grand. On va chercher les modèles très très haut. Et c'est vrai qu'il a aussi la beauté d'Alexandre le Grand. Il a quand même beaucoup de qualités, cet homme-là. Et c'est le surnom qui va lui rester.
Et il combat à l'extérieur de Rome. Hein. Il va agrandir le territoire romain du côté de l'Espagne, de la Libye, de l'Asie mineure. On est vers là ?
Alors, sa première campagne extérieure, c'est en fait, l'idée, c'est de poursuivre jusqu'en Sicile et jusqu'en Afrique du Nord les partisans du camp adverse, les partisans de Marius et de ses successeurs, les populares. Il va combattre donc des Romains en Italie, il va les combattre en Sicile, il va les combattre en Afrique du Nord, l'actuelle Tunisie. Il va en profiter pour, parce que ça marque mal, finalement, je dirais, dans un curriculum vitae, c'est le cas de le dire, de n'avoir combattu que des Romains. Donc, il va en profiter pour faire quelques petites opérations, mais très mineures, sur les peuples un peu dépendants de Rome à cette époque-là en Afrique du Nord. Et il revient donc, et il exige, alors qu'il est très jeune, il exige de Sylla d'avoir les honneurs du triomphe, alors que bon, il a surtout triomphé contre des Romains. Alors de là, il va être entraîné vers une autre campagne, contre des Espagnols, mais aussi contre des Romains qui étaient toujours de ce clan, de ce camp marianiste, le camp des populares. Et donc, il va combattre en Espagne, et donc il va contribuer, même si l'Espagne est déjà en grande partie romaine, il va contribuer donc à attacher l'Espagne à Rome, et il va donc en tirer donc un second triomphe, un triomphe là contre l'Espagne, et aussi un triomphe là un peu volé quelque part, puisque quand il revient donc en Italie, ben il se passe quelque chose à ce moment-là qui est important, c'est Spartacus. Et il arrive juste au moment où son de ses confrères, Crassus, un autre politique romain, un autre lieutenant de Sylla, où Crassus est en train d'écraser complètement la révolte de Spartacus. Et en fait, il tire un peu les marrons du feu. Lui, il arrive avec son armée à cette époque-là. Et donc, il va aussi triompher de Spartacus, alors que c'est Crassus qui a fait tout le boulot. Donc, c'est vrai que c'est un peu un opportuniste, hein, notre ami Pompée. Donc, il est finalement toujours au bon moment, au bon endroit. Et ensuite, il est entraîné donc dans une campagne qui, là, est quand même peut-être sa plus belle campagne. Il va débarrasser la Méditerranée des pirates qui infestent la Méditerranée à cette époque-là. C'est très dangereux de voguer sur une galère, qu'elle soit romaine ou grecque à cette époque-là, en Méditerranée, parce qu'il y a des pirates partout. C'est un peu une des conséquences, un des dommages collatéraux de la conquête romaine. Rome a désorganisé donc l'équilibre maritime de la Méditerranée, et donc des brigands des mers se sont répandus un peu partout, et donc ça commence à coûter très cher. On cherche un général capable d'écraser ce brigandage maritime, et c'est ce que va faire Pompée. Il réunit une énorme flotte du côté du détroit de Gibraltar, et il va balayer toute la Méditerranée d'ouest en est. Donc ses escadres ont certainement dû fouiller toutes les baies, toutes les criques de la Corse et des autres îles.
C'est ce que j'allais vous demander, si Pompée était passé pas loin de chez nous.
Ah, il est forcément passé par là, puisque la Corse, avec sa géographie particulière, peut être un repère facile pour des pirates audacieux. Il a fait ça pour la Corse, pour la Sicile, pour la Sardaigne. Et donc, il purge la Méditerranée occidentale. En fait, il repousse les pirates devant lui. Il a accumulé une force si puissante que les pirates s'en vont. Et il va les acculer dans leur repère en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, où il va donc, en quelques mois, c'est vraiment une blitzkrieg sur mer, il va donc purger donc la Méditerranée et faire de la Méditerranée véritablement un lac romain et un lac surtout sûr qui permettra donc aux produits des différentes provinces de Rome de pouvoir circuler assez librement. Donc, dans toutes ces parties. Donc, il, ne serait-ce que pour ça, il est très important. Et du coup, comme il est sur place, on va lui dire, tiens, tu es là, il y a un général romain, Lucullus, qui n'arrive pas à écraser un adversaire, un vieil adversaire de Rome, le roi Mithridate, un des derniers rois hellénistiques. Tu as qu'à le remplacer et tu vas vaincre Mithridate, tu vas écraser ce roi. C'est ce qu'il va faire, il va remporter une victoire contre Mithridate. Alors là aussi, il est bien tombé, Lucullus avait fait encore une grande partie du boulot. Il arrive au moment où Mithridate était un peu finalement affaibli. Il finit le job. Et de là, donc, il va complètement réorganiser l'Orient au profit de Rome. Il va conquérir la Syrie. La Syrie va devenir une des provinces les plus prestigieuses et les plus riches de Rome.
Il y a la Palestine.
Et la Palestine, puisque, évidemment, c'est un Orient qui est déjà compliqué à cette époque-là. Et donc, les roitelets de la région, qui sont plus ou moins dépendants de Rome, vont venir voir cet homme fort en lui disant, ben, nous on a des problèmes, vous voulez pas nous les régler? Et justement, en Palestine, il y a deux princes qui s'opposent pour le trône de Jérusalem. Il va prendre parti pour l'un et du coup, il va mettre le siège, non pas devant Jérusalem, puisqu'il y a une partie des habitants qui lui ouvrent les portes, mais il va mettre le siège devant le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, qui en soi est une énorme forteresse. Et il va réussir à la prendre, et il la prend de vive force, d'ailleurs en profitant du Shabbat, puisque ce sont des juifs très pratiquants qui ne veulent pas combattre le Shabbat pendant le samedi. Donc il a compris le truc, donc il les attaque que ce jour-là. Et il finit donc par s'emparer complètement de Jérusalem et d'attacher la Judée comme un royaume client, un royaume protégé de Rome. Avec évidemment les conséquences que l'on sait si on se projette 60 ans plus tard. Il va y avoir donc quelqu'un qui va naître en Judée qui va avoir aussi quelque importance. Mais ça, c'est une autre histoire. Pompée n'est pas encore au courant. Et donc là, il va pouvoir revenir et triompher une troisième fois, donc comme le conquérant sur les trois continents, triomphateur du monde.
On parle de Pompée cette semaine dans C'est votre jour de science avec notre invité, le professeur Eric Tessier, maître de conférence à l'Université de Nîmes où il dirige le département histoire et spécialiste reconnu de la Rome républicaine.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Specchio di libertà un se vecchie, mare d'orchino brigiata e anche antelle, va inteso su un'auga un tuo tempo, e se tu stai moda così chi ti sento, mare nostro, mare nostro, lacrima scorsa di venti, occhio da quale fatto idere di fuoco, di le conquiste basse un testimonio premio, t'hanno vorrato sti un tuo cuore lo genio, mare no. Scoli e battelli, porti e bandiere, creanze sare confine, tale sure bramato una sirena, ti peso una condanna a noi chi ci mena. Mare nostro, mare nostro, mare nostro, mare nostro.
Michel Cacciaguer à Mare Nostrum.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bienvenue à tous. Pompée le Grand, dernier impérateur de la République romaine au 1er siècle avant notre ère, à l'honneur cette semaine dans votre rendez-vous. Nous en parlons avec le professeur Éric Tessier, maître de conférence à l'université de Nîmes. Professeur, vous nous parliez avant la pause musicale de Pompée victorieux en Orient. Peu après, il formera avec Crassus et Jules César le premier triumvirat.
Et oui, c'est une entente entre trois Romains très importants, mais qui, individuellement, n'ont pas assez de poids pour contrôler Rome. Il y a Crassus. Crassus est richissime. On pourrait dire riche comme Crassus. mais c'est vrai qu'il n'a pas pu obtenir les succès militaires dont il rêve. C'est sûr qu'il est à l'origine de la défaite de Spartacus. Mais ça suffit pas. Vaincre un esclave, c'est pas très glorieux. Il y a César. César, lui, c'est l'héritier de Marius. C'est le neveu de Marius. C'est-à-dire, c'est l'héritier du clan des populaires, du camp des populaires, des populares. Et donc, l'adversaire, au fond, du camp auquel appartiennent Pompée et Crassus. Mais il est temps, finalement, de faire un peu la paix des braves à ce niveau-là, entre Romains, pour surtout pouvoir se partager le pouvoir. Et pour se partager le pouvoir, il faut Pompée. Pompée, lui, il a la gloire militaire, il est revenu aussi très riche d'Orient. Et si les trois s'entendent au lieu de se combattre, eh bien, tout est permis pour eux. C'est ce qui va se faire. Donc, ils font cette espèce de deal, d'entente, parce que derrière eux, il y a toute une clientèle. C'est en fait un cartel de mafieux, il faut bien le dire, avec tous leurs clients qui sont derrière pour se dire, bon, on va se partager le pouvoir. Et César va en tirer profit, puisque César va être consul pour la première fois, donc en 59, et une fois qu'il a été consul, il va donner satisfaction donc à ce que demandent Pompée et ses partisans, et ensuite, on va lui donner une armée pour conquérir les Gaules. Et donc César, qui est en retard par rapport à Pompée qui est son modèle, son exemple, va pouvoir donc essayer d'obtenir une gloire équivalente à celle de César. Si on relit la guerre des Gaules, finalement, on comprend que tout ce que fait César, c'est pour dire « j'ai fait aussi bien que Pompée ». Pompée est allé sur la mer Noire, sur la mer Caspienne, là où aucun Romain n'était jamais allé. Lui, il dit « j'ai traversé le Rhin, j'ai traversé la Manche pour aller en Bretagne ». Il a repoussé les limites du monde, il a planté les aigles de Rome très très loin. Donc c'est vraiment pour dire « voilà, je suis autant que Pompée ». Entre-temps, il va y avoir aussi des ententes, c'est-à-dire que César va offrir sa fille unique, Julia, à Pompée. Pompée qui est un homme à femme, Pompée qui pourrait être le père de Julia, mais ça, on pose pas la question donc à Julia, on dit « c'est lui », et puis voilà. Pompée qui est pas très rancunier, puisque César a été l'amant de la précédente femme de Pompée. Il a divorcé et du coup, en compensation, lui donne sa fille. Drôle de mœurs, autant aux mœurs, dirait Cicéron. Mais c'est comme ça. Ce qui se passe, par contre, c'est que Julia devient vraiment amoureuse de Pompée et lui aussi. C'est un vrai mariage d'amour. Du coup, c'était pas prévu. Mais au moins, du coup, pendant que César est en train de conquérir les Gaules, Pompée, file le parfait amour. Tandis que Crassus, lui, obtient une armée pour aller combattre en Orient contre les Parthes, c'est-à-dire l'Irak actuel. Et là, ça tourne mal pour lui. Il se fait vaincre, il meurt, il est décapité. La légende veut que le roi Parthe lui aurait fait couler de l'or fondu dans la bouche en disant « Tiens, rassasie-toi de cet or que tu as tant aimé ». Et donc du coup le triumvirat va devenir un doumvirat, donc et forcément c'est un fauteuil pour deux. Donc il y en a un de trop, donc entre Pompée et César, il va y avoir évidemment un conflit qui va se déclencher, d'autant plus que la pauvre Julia est morte en couche entre-temps. Et donc ce lien qui reliait ces deux géants de l'histoire de Rome est rompu malheureusement.
Et c'est au moment où César va revenir de Gaule, après avoir eu également sa période de gloire à l'extérieur, quand il va franchir le fameux Rubicon, que les choses vont commencer à mal tourner.
Complètement, c'est là que tout se joue. Donc c'est lorsque César franchit le Rubicon, au début de l'année 49, quand il dit « Allez à Jactaès », le sort en est jeté, parce que voilà, c'est le Sénat de Rome qui a pour protecteur Pompée, dit, mais la guerre qu'a fait César, que César a pu faire donc en Gaule est une guerre illégale. Il l'a faite pour sa propre ambition. Donc que César vienne à Rome pour être jugé. On sait ce que ça veut dire, un jugement au Sénat à Rome. Donc César dit pas question. Moi, si je reviens avec mes légions. Et donc, c'est finalement ce qui va se faire. Pompée, qui a eu une attitude à ce moment-là un peu trop décontractée. Il a dit, oh, mais de toute façon, c'est pas un problème. Et moi, Pompée, il suffit que je frappe du sol. il en sortira des légions. Il a eu beau frapper, il n'y avait rien qui est venu, et par contre, les légions de César se rapprochaient de Rome, et il a dû s'enfuir précipitamment, en emportant avec lui le Sénat de Rome, les magistrats de Rome, des recrues, parce qu'il n'avait pas eu le temps de les former, pour s'enfuir en Grèce. Ce qu'il a oublié, c'est dommage pour lui, c'est le trésor de Rome. Et donc César va pouvoir faire main basse sur ce trésor et avoir les moyens de cette guerre, nouvelle guerre civile qui se redéclenche entre César et Pompée à cette époque-là, en 49.
Et comment Pompée se retrouve alors assez vite, peut-être, du côté du roi d'Égypte, Ptolémée XIII?
Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que César est dans une position centrale, ce qui est toujours un avantage en termes stratégiques, c'est-à-dire qu'il occupe l'Italie, il occupe les Gaules, où il a ses légions fidèles et extrêmement aguerries après la victoire d'Alésia, tandis que Pompée a des légions en Espagne, il en a en Afrique du Nord, il en a en Orient. Donc, César va y aller morceau par morceau, il va commencer par réduire les légions de Pompée en Espagne, il va s'attaquer ensuite à Pompée en Grèce, et c'est la bataille de la Pharsale, qui se joue dans le nord de la Grèce, qui est une grande bataille donc entre Romains, où là vraiment c'est les meilleurs légionnaires de Rome qui vont s'affronter, et c'est César le meilleur tacticien, c'est finalement Pompée qui est vaincu, encore la comparaison avec Bonaparte joue, Pompée qui a commencé très jeune, qui est entré très jeune dans la carrière militaire, qui a été ensuite entraîné à être un politique, qui avait une ambition aussi importante, et qui est l'homme finalement d'une seule défaite, mais d'une défaite catastrophique, qui l'oblige à s'enfuir, à abandonner ses hommes, et à se réfugier en Égypte. L'Égypte qui est un royaume client de Rome à cette époque-là, l'Égypte dont il connaissait très bien le précédent pharaon, Ptolémée Laulette, et ce Ptolémée Laulette, c'est-à-dire le flûtiste, avait dit « Toi, Pompée, tu seras le protecteur de mon fils ». Donc il y va, il se dit « Bon, je vais aller voir mon filleul, finalement, quelque part, en tant que parrain ». Et donc il arrive à un mauvais moment, puisque ce Ptolémée-là est en guerre contre sa sœur, une certaine Cléopâtre, qui aura un certain renom dans l'histoire elle aussi. Et les Égyptiens sont très embêtés en disant « Mais qui est-ce qui arrive là ? C'est un vaincu, et César arrive derrière avec ses troupes. » Donc pour plaire à César, tant pis pour le parrain, il descend donc de sa galère et il est assassiné. Et on tranche sa tête pour l'offrir à César. Et César est très mécontent parce que les Égyptiens lui ont fait un cadeau empoisonné. Lui, il aurait voulu ramener ce grand Romain, Pompée le Grand, à Rome pour lui dire « Voyez ma clémence, je l'ai vaincu et je le ramène finalement avec tous les honneurs ». Et les Égyptiens lui ont volé ce plaisir-là. Ils le paieront très cher d'ailleurs.
Il va venger la mort de Pompée ?
Oui, il va venger la mort de Pompée, puisqu'il va commencer par faire liquider tous les conseillers de ce jeune pharaon, qui est un enfant pratiquement, il doit avoir une douzaine d'années. Il va les faire exécuter, et puis, tout simplement, on connaît l'histoire, il va prendre parti pour le camp adverse, c'est-à-dire qu'il va soutenir la sœur aînée du pharaon, la fameuse Cléopâtre, et donc il va mettre Cléopâtre sur le trône, ce qui est à la fois finalement quelque chose qui l'arrange, puisqu'il est séduit par Cléopâtre, puisque ça lui permet de mettre aussi la main sur l'Égypte. Et l'Égypte, c'est des trésors, c'est des richesses, et c'est le blé d'Égypte surtout. Et aussi, in fine, de venger, quelque part, la mort de Pompée, ce qui a été son meilleur ennemi.
Que reste-t-il des traces de Pompée à Rome aujourd'hui ?
Eh bien, Pompée a fait quelque chose pour Rome que les Romains ont beaucoup apprécié, c'est qu'il a construit le premier théâtre romain en dur. Il a visité l'Orient, il a visité la Grèce et il a vu ces grands monuments, c'est l'urbanisme hellénistique qui était vraiment à son apogée à cette époque-là. Il s'est dit, mais Rome n'a pas de monument équivalent. Il n'y a pas le Colisée, il n'y a rien finalement à Rome. On est encore dans la Rome républicaine, assez austère. Les magistrats de Rome, les sénateurs disaient, oula, mais si on a un théâtre permanent, ça va être comme les Grecs, on va se ramollir. Donc on faisait des théâtres pour des spectacles qui étaient faits en l'honneur des fêtes religieuses. Mais c'est des théâtres en bois qu'on montait, qu'on démontait. Et là, Pompée dit, moi j'arrive avec beaucoup d'argent, je vais offrir ce cadeau somptueux donc aux Romains, un gigantesque théâtre qui est très très beau, avec un temple tout en haut, donc c'est un peu finalement un peu une arnaque en disant non, je ne construis pas un théâtre, pas du tout, ce sont juste les escaliers du temple qui est tout en haut, regardez. Donc on a un minuscule temple et un énorme théâtre. Et donc de ce théâtre, il reste quasiment rien, il reste une rue qui est courbe à Rome, qu'on peut voir, et qui épouse la courbure de ce théâtre qui a été complètement dévoré par les siècles et par les maisons, les habitats qui se sont greffés dessus. Mais à l'époque de Pompée, c'était certainement le plus beau monument de Rome, et un des tout premiers en tout cas.
Oui, on parle de 20 000 spectateurs, hein, une scène de 150 mètres de long, des portiques avec des statues précieuses, ou en tout cas colossales.
C'était une façon de montrer aussi son triomphe, c'est-à-dire que tous les trésors, les tableaux, les statues, tout ce qu'il a pu ramener d'Orient, qui était gigantesque, il a fallu 2 jours de triomphe, de défilé pour montrer tout ça, et on en a montré que la moitié, et bien tout ça, il va le mettre comme une sorte de musée à ciel ouvert, mais enfin bon, sous des portiques, sous des protections. Et donc ça, c'était un endroit, un jardin magnifique où se promenaient les Romains, et qui était tout à la gloire de Pompée. Et finalement aussi, le clin d'œil de l'histoire, c'est qu'il a fait aussi construire une nouvelle curie pour l'ancienne avait été brûlée à un moment. Il fait construire une curie, c'est-à-dire là où se réunit le Sénat. Et dans cette curie, il y a une statue triomphale de Pompée qui est triomphateur du monde. Et c'est au pied même de cette statue que César sera assassiné. Il va expirer au pied de Pompée. Donc les deux avaient véritablement un destin qui était lié du début à la fin.
Alors on vous remercie vraiment beaucoup. On se regarde tous les trois dans le studio. Il y a Christophe et puis il y a aussi Louis qui est le stagiaire de 3e qui a bu vos paroles. Éric Tessier, on a eu le bonheur que vous nous fassiez revivre comme cela l'existence de Pompée, quelqu'un qu'on avait oublié un petit peu dans l'histoire. Les grands livres à l'école ne le citent pas toujours et c'était vraiment un bonheur que de vous avoir.
Merci
beaucoup.
Merci beaucoup Éric Tessier, maître de conférence à l'Université de Nîmes. On aura le plaisir, je l'espère, de vous retrouver très prochainement en Corse, peut-être.
Avec grand plaisir.
Oui, peut-être même avoir un micro sur une
autre thématique. Oui. Merci beaucoup Éric Tessier.
Volontiers.
À très vite.
Bonsoir à tous. Merci, au revoir.
Bonsoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Fabrice, quelle question débile avez-vous à me proposer cette semaine ?
Figurez-vous que j'ai arrêté complètement
ça y est.
Les questions débiles et ça va plutôt être triste d'ailleurs ce que je vais vous proposer maintenant. D'abord, première question malgré tout, est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Xipetotec ?
Non.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette sorte de consonance, de son ?
Australopithèque.
Ouais. En fait, il s'agit d'un dieu aztèque, pas n'importe lequel. Le dieu de la fertilité de la terre et de la régénération des cycles agricoles. Eh bien, figurez-vous qu'aussi important que ce dieu était autrefois pour les Aztèques, aucun temple ne semblait lui avoir été dédié. Chose étonnante. Sauf qu'il y a quelques semaines seulement, des archéologues mexicains ont enfin découvert un monument élevé à la gloire de notre fameux Xipetotec, signifiant littéralement « le seigneur écorché ». On va comprendre. En fait, il valait mieux pas trop fréquenter les deux autels de son temple à l'époque, car lors d'une grande fête annuelle que le peuple aztèque donnait à sa gloire, des prisonniers, gladiateurs, s'entretuer à coups de flèche dans le corps sur un premier autel, tandis que sur l'autre, en même temps, à l'opposé, des captifs étaient tranquillement dépecés vivants. Les prêtres menant cette macabre cérémonie s'empressaient alors de revêtir la peau sanguinolente des sacrifiés et de redoubler d'incantations pour appeler à des mois à venir heureux et nourriciers. En termes de manifestation, dans l'espoir de lendemain plus clément, heureusement qu'on préfère aujourd'hui, et c'est ce que je me dis, se parer de gilets jaunes plutôt que de peau rouge.
C'est pas drôle cette semaine. Hein. Avez-vous déjà pris le contrôle d'un cafard avec votre esprit
Alors hier matin, mais il s'est enfui au final. Bon.
Alors figurez-vous qu'un Chinois a réussi à l'aide d'un dispositif électronique connecté au système nerveux d'un cafard à contrôler les déplacements de l'animal. Ah oui, c'est pas une blague. Hein. Il était déjà possible, figurez-vous, de piloter un cafard à l'aide d'un smartphone. Un étudiant de Shanghai a fait beaucoup mieux. Ce jeune Chinois a équipé un cafard d'une sorte de sac à dos électronique. De cette micro-carte partent 2 électrodes dont les extrémités sont fichées dans les antennes de l'insecte. Dans la nature, un contact mécanique sur une antenne indique au cafard qu'il a heurté un obstacle, ce qui l'incite à changer de direction. Et le fait d'insérer une électrode directement dans l'antenne permet de reproduire artificiellement ce type de signal réflexe. À chaque trame de stimulation électrique, le cafard va changer de direction selon que le signal est envoyé dans l'antenne gauche ou droite. Une fois le cafard ainsi équipé, son dispositif de pilotage est relativement simple. Li, c'est le prénom de cet étudiant chinois. Il n'a plus qu'à revêtir un casque, un équipement pourvu de dizaines d'électrodes capables de percevoir les variations électromagnétiques du cerveau à travers la boîte crânienne. Ce type d'équipement ne remplace pas encore un joystick ou une manette de jeu, mais il permet d'envoyer des commandes relativement simples à l'aide d'un logiciel. En effet, une fois le casque sur le crâne, l'étudiant n'a plus qu'à penser « va à gauche » ou « va à droite » pour que le dispositif reconnaisse le profil électromagnétique correspondant à chaque commande. Alors Fabrice, on va demander aux antennes si ça pouvait marcher sur les humains, notamment sur votre belle-mère. Je n'ai pas encore la réponse.
Moi, j'aurais bien aimé. Je me renseignerai pour vous. Très, très, très loin. À peine pourrais-je y penser qu'elle serait déjà en train de courir. Ça me ferait vraiment du bien. Vous l'avez deviné.
Votre belle-mère, tout comme nos auditeurs, peuvent réécouter cette émission sur bleurcfm.fr.
Ma belle-mère est déjà couchée à 17h. Je vous donne l'info aussi.
Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure, Fabrice. Bonne soirée. Ciao.